Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le chaînon manquant entre le monde diplomatique et Picsou Magazine. 2 heures au cœur de l'actu, un soupçon de magie en plus avec les plus magiques des acolytes. Certains dans cette rédaction ont pris la détestable habitude de les surnommer Catherine et Liliane. Allez. Et franchement, honnêtement, je ne vois pas pourquoi. Certes, elles ne peuvent pas s'empêcher de papoter durant les pubs ou les journaux, mais leurs échanges sont toujours assez constructifs, comme lundi quand il a été question de Mariah Carey. Une fois de plus, ça a immédiatement fait tilt.
Pour moi, qu'il a été là-bas en concert. J'adore Mariah Carey.
Toujours quelque chose à dire, quelque chose à dire.
Pour moi, qu'il a été là-bas en concert vendredi.
Ah ouais ?
J'adore Mariah Carey.
Mais elle chante faux.
Et bien justement.
Il fantasme sur elle.
Oh, peut-être un peu.
Toujours quelque chose à dire.
Peut-être un peu. Heureusement, Debout les copains, ce n'est pas que les élucubrations de Catherine et Liliane, c'est aussi l'érudition de Fabrice Dalméda. Notre spécialiste histoire et charcuterie. Car oui, ce matin, alors que la recrudescence des intoxications à la salmonelle inquiète, Fabrice devait nous proposer une chronique au titre qui aurait été culte si je ne l'avais pas retoqué. Je cite, accrochez-vous, « Crise de la salmonelle dans la charcuterie, l'épopée d'une bactérie ».
Mais non !
Et si ? Alors évidemment, j'ai mis mon veto. Hein, et Fabrice nous parlera plutôt d'Henri IV, ce roi qui a su nous faire oublier les divisions de son pays, vu qu'en plus c'est l'anniversaire de sa naissance, ça se tient.
Merci d'écouter Europe 1, nous sommes le jeudi 13 décembre. Et il est 6h, très bon réveil. 5h-7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce jeudi 13 décembre, voici le journal de Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin, Céline.
C'est le nouvel ennemi numéro 1, le tireur de Strasbourg est toujours activement recherché. Un appel à témoins a été lancé, plus de 700 policiers et gendarmes sont mobilisés. 16 personnes ont été victimes de Sherif Shekat, 2 sont mortes, les autres blessées. Toute la journée, les familles se sont rendues dans les hôpitaux de Strasbourg hier. L'attaque a été commise en pleine crise des Gilets jaunes, le mouvement se divise. Beaucoup appellent à ne pas aller manifester samedi.
Europe 1.
Et ce matin, Strasbourg reste quadrillé par les forces de l'ordre. Plus de 700 policiers et gendarmes sont mobilisés pour retrouver l'auteur présumé de l'attaque qui a fait au moins 2 morts et 14 blessés, dont un en état de mort cérébrale. Hier soir, vers 19h, la police a mis un visage sur l'ennemi public numéro 1. Regard noir, barbe taillée et une marque noire sur le front. L'homme de 29 ans, déjà condamné 27 fois, s'est volatilisé dans le quartier du Neudorf, quartier qu'il connaît comme sa poche. Arthur Mbaché.
Quand il descend du taxi à Neudorf, rue d'Épinal, avec sa blessure au bras, Sherif Shekat a une idée claire en tête. Refaire ce qu'il maîtrise parfaitement depuis qu'il a 12-13 ans, semer les policiers dans les jardins du quartier de son enfance. À 200 mètres de là, au fond d'une impasse, il y a une maison aujourd'hui en travaux. Le fugitif strasbourgeois y a vécu une quinzaine d'années, la période de ses premières armes de délinquant. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs dit hier que dès l'âge de 10 ans, il avait un comportement qui relevait du pénal. Et bien dans le quartier, on nous raconte les descentes de police régulières. Les prouesses de ce gamin, de ses frères et de leurs copains pour escalader les grillages, se glisser sur le toit d'un garage, se cacher dans une cabane un moment, échapper aux forces de l'ordre. Malgré son bras blessé avant-hier soir, Sherif Shekat a apparemment refait le coup, comme à l'époque où il vivait ici avec sa mère, sa sœur et ses 3 frères, dont l'un aujourd'hui en garde à vue s'était fait remarquer dans le quartier puisqu'après les attentats de Paris, il s'était mis à porter barbe et djellaba. Strasbourg, Arthur Mbaché, Europe.
Les Strasbourgeois qui se réveillent donc une nouvelle fois la peur au ventre, sachant que le principal suspect n'a pas été retrouvé. Le dispositif Sentinelle a été renforcé partout en France. Au total, 1800 hommes en plus vont être répartis sur tout le territoire.
Et Céline, on connaît désormais l'identité des victimes de l'attaque de Strasbourg.
Oui, 2 morts, un père de famille qui se trouvait avec sa femme et son fils dans un restaurant. Ces 2 derniers étaient partis aux toilettes. Lui a été abattu. L'autre victime est un touriste thaïlandais de 45 ans. Parmi les blessés, un ressortissant afghan en état de mort cérébrale. 13 autres personnes ont aussi été touchées. Toutes prises en charge dans 3 hôpitaux de Strasbourg. Pierre Herbulot.
Des pleurs et des sanglots dans le hall de l'hôpital. 2 femmes se prennent dans les bras. Elles viennent d'apprendre qu'un de leurs amis, un journaliste italien, est hospitalisé dans un état critique. Puis ces dizaines de Strasbourgeois de la communauté afghane qui arrivent ensemble depuis le tramway. Kamal, un de leurs amis, a reçu une balle dans la tête. Il est dans un état de mort cérébrale. Omar, un cousin, vient lui rendre visite.
Il n'y a pas pire que ça dans la vie, de perdre quelqu'un de proche. Qu'est-ce qu'il avait fait lui? Rien du tout. Bon, en fait, lui, il était sorti avec sa femme pour faire des achats et faire des courses, voyez, pour le Noël. Et voilà, il a perdu sa vie.
Il y a cette fille de 18 ans touchée au bras, rejointe par sa mère. Il y a ce médecin, chef de service, qui dit n'avoir jamais vu autant de blessés par balle de toute sa carrière. Il y a la ministre de la Santé qui vient soutenir tout le monde. Et enfin, il y a toujours ces crises de larmes qui résonnent à l'accueil. Strasbourg, Pierre Arbulot, Europe 1.
Le marché de Noël de Strasbourg reste fermé aujourd'hui. Le préfet estime que les conditions de sécurité ne sont pas encore suffisantes. Par ailleurs, une prière œcuménique est prévue à 18h à la cathédrale de Strasbourg. Le pape François a condamné ces actes. La grande mosquée de Strasbourg parle d'un acte infâme, lâche et barbare.
Europe 1, 6h04.
Et une question ce matin, l'attentat aura-t-il un impact sur la mobilisation des Gilets jaunes?
Oui, le gouvernement en appelle en tout cas à la responsabilité des manifestants, des ministres ont demandé l'arrêt du mouvement, des élus locaux ont aussi réclamé une pause. Le sentiment, c'est que le mouvement se divise, comme a pu le constater Jean-Gabriel Bourgeois à Chartres pour Europe 1.
Arrêter ou poursuivre le mouvement dans cette famille de gilets jaunes de Chartres, la question fait débat. Patricia, la maman, fonctionnaire de 57 ans, est venue manifester sur les Champs-Élysées samedi dernier. Pour elle, il est temps de faire une pause dans la mobilisation.
Pour le moment, on est en deuil avec ce qui s'est passé à Strasbourg, où malheureusement j'avais ma fille et mon gendre et j'ai eu la peur de ma vie. Et je me dis que la correction et la solidarité doivent jouer. Dans ces cas-là, il vaut mieux attendre quelques jours et là, on pourra reprendre le mouvement.
Sa fille, Laura, a vécu l'attaque du marché de Noël de Strasbourg confinée dans un restaurant. Avec son compagnon, ils ont décidé d'écourter leur séjour en Alsace, mais ils restent très mobilisés.
Les gens ont le droit de faire leur deuil. Ce qui a pu se passer, c'est quand même atroce. On prend le temps de pleurer les personnes, mais je pense qu'il ne faut en effet rien lâcher, plus c'est encore nécessaire. Même après tout ce que M. Macron a pu nous dire à la télé, là, je pense qu'il faut quand même continuer le mouvement.
Même si elle soutient les Gilets jaunes, Laura n'ira pas manifester, contrairement à son compagnon, Thomas, qui a déjà l'intention de retourner à Paris samedi prochain.
Reportage signé Jean-Gabriel Bourgeat. Trois gilets jaunes impliqués dans une course-poursuite qui avait tabassé un chauffeur de poids lourd lundi matin dans le Haut-Rhin ont été mis en examen hier soir, poursuivis pour violence en réunion avec armes et mise en danger de la vie d'autrui. Le gouvernement a retenu 5 thèmes pour le futur grand débat local annoncé par Emmanuel Macron pour répondre à la crise des gilets jaunes. 5 thèmes parmi lesquels la fiscalité, l'immigration et la transition écologique.
Justement, le sujet des gilets jaunes plane aussi sur les négociations internationales à la COP24 qui se tient en ce moment en Pologne.
Oui, un sentiment est en train d'émerger, le sentiment que la France est en train de baisser les bras sur la taxe carbone et ce n'est pas très bien vu de la part des autres pays, l'ordre d'Autriche.
Dans toutes les langues, plusieurs pays font référence aux gilets jaunes à l'intérieur des négociations. La France a reculé sur la taxe carbone, lance Ousmane Falsar, le négociateur pour le Sénégal. C'est pourtant à la France, comme aux autres pays occidentaux, d'agir vite car ce sont eux qui polluent le plus.
Durant les négociations, on est confronté à de sérieuses difficultés. Les choses avancent très lentement. Il n'y a pas de consensus au niveau des États. Et ça, c'est quelque chose qui ne motive pas.
Mais si les gilets jaunes sont cités dans les discussions à la COP24, c'est surtout pour dire que les taxes ne doivent pas être imposées trop vite si c'est pour pénaliser les plus modestes, explique le député européen Yannick Jadot.
La question des gilets jaunes et la question de la négociation climatique internationale, c'est le même sujet. Comment changer nos comportements? Comment changer nos modes de consommation, de production, de déplacement, tout en luttant contre les inégalités.
Et à la tribune de la COP24, la secrétaire d'État à l'environnement, Brune Poirson, a réaffirmé que la transition écologique en France se ferait de la façon la plus juste possible. Katowice, l'ordre d'Autriche, Europe 1.
Theresa May survit au front d'or. Le vote de défiance fomenté par certains élus conservateurs a échoué. La première ministre britannique Theresa May reste en place. Elle peut filer à Bruxelles pour tenter d'améliorer le projet d'accord sur le Brexit. Dans l'actualité également, les forces de sécurité de l'État hébreu ont abattu hier un Palestinien dans un village de Cisjordanie. Il est soupçonné d'avoir tiré sur 7 Israéliens, dont une femme enceinte qui a dû accoucher prématurément. Son bébé est décédé. Et puis en sport, Lyon qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. En handball, les Françaises sont en demi-finale. Elles affrontent les Pays-Bas demain à 21h à Paris-Bercy.
Merci, c'était le journal de Céline Kallmann. Céline, rapidement, sachant que votre mari nous écoute, par rapport à notre petite affaire, vous avez un message codé pour moi en réponse à cette question que je vous posais hier.
Un conseil, n'ayez pas peur de sauter dans ce grand bain.
Eh bien, message reçu 5 sur 5. Voici le mien. Quand tu veux, où tu veux, j'ai toujours mon bonnet de bain sur moi.
Il est 6h08, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire ce matin, l'occasion de l'anniversaire de sa naissance. Et alors que notre pays traverse une crise sociale, Fabrice Dalméda reviendra sur la personnalité d'un roi qui a su faire oublier leur différence aux Français, le bon roi Henri IV.
Il est 6h09, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Une journée pluvieuse sur l'ouest et le sud de la France aujourd'hui.
Oui, sur la façade atlantique ce matin, ces averses gagneront ensuite tout le sud-ouest et puis des Pyrénées aux Alpes jusqu'en Corse. Des averses faiblement pluvieuses. Ailleurs, le ciel sera plus lumineux, partagé entre nuages éclaircis. De la grisaille encore dans le nord-est pour ce matin avec des brouillards givrants. Donc faites attention sur les routes. Côté température, c'est froid avec de nombreuses gelées ce matin sur la moitié nord et une moyenne de moins 3 à 5 degrés. 5 à 10 degrés, ça c'est pour la moitié sud. Cet après-midi, la minimale sera pour Nancy avec 1 degré. Il en fera 2 à Paris, 4 à Nantes et Grenoble. 5 degrés à Clermont-Ferrand, de 8 à 14 pour la moitié sud. Demain, ça ira beaucoup mieux avec du soleil pour quasiment tout le monde et les températures vont doucement remonter à partir de samedi.
Merci Céline. Eva Rock.
Le 13 décembre 1920, naissait la société Haribo. Alors pour quel bonbon craquez-vous? Quel est celui qui a marqué votre enfance? C'est la question que nous avons posée aux auditeurs.
Placement
et sur Twitter. Exactement. Et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Cara Noyac nous a répondu. Alors le Rotella, vous savez, c'est le rouleau de réglisse. Les fraises Tagada, les carensacs, les bonbons qui pétillent sur la langue, les soucoupes avec la poudre qui pique. Fabrice nous dit les Michoco achetés au cinéma à l'époque auprès des ouvreuses qui passaient, vous savez, dans les rangs avec leurs petits paniers en osier. C'était sucré, le caramel collé aux dents, mais c'était bon. Et Stéphanie nous dit les Schtroumpfs, j'en ai toujours en stock, même encore aujourd'hui, je ne voudrais pas rendre mes neveux et mes nièces malheureux en n'en ayant pas, et pour moi aussi, évidemment. Merci pour vos messages, vous continuez sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci à tous.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
6h11, l'heure où chaque matin, quand il entre dans ce studio, avec le même sex appeal que le laveur de carreaux dans la pub Coca-Cola Light, spéciale dédicace à nos auditrices des années 80, Céline Dacosta et Eva Rock chavirent de bonheur et la température monte d'un cran.
Moi j'ai enlevé mon pull, je peux pas faire plus. Hein.
Si, si vous m'abusez, vous avez tout votre pantalon, Céline. Voilà en tout cas l'objet de tous vos fantasmes, Jérôme Lacroix, pour le journal des sports.
C'est vrai, c'est choquant.
À la une, Jérôme, rajoutez un couvert à la table des grands.
Et ils ont fêté ça hier soir, dans leur vestiaire, les footballeurs
lyonnais.
Attends,
qu'est-ce que vous avez mis comme son, là?
Ah bah, c'est ah oui, la fête c'est dans le vestiaire lyonnais hier soir, invité, oui, à la table des 16 grands d'Europe. Ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ils ont, hier soir, sous la neige ukrainienne, achevé le premier tour par un nul, un partout contre Donetsk. Le petit point qui leur manquait pour se qualifier, d'abord mené. Ils ont égalisé par le champion du monde Nabil Fekir. Le groupe est euphorique, témoigne le milieu Lucas Touzard.
Ouais, la folie. On est tous très fiers, très heureux. Je pense que c'est pas rien dans l'histoire d'un club et d'un joueur. C'est aussi une très belle chose. Donc, faut savourer ce qu'on a fait. C'est encore plus beau ce soir.
Et 7 ans que les Lyonnais n'avaient plus connu les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
Et oui, adversaire connu lundi, tirage au sort.
Et voilà, les Lyonnais finissent deuxième du groupe derrière Manchester City. Du coup, ce sera forcément du lourd en huitième. Hein. Real Madrid, Barcelone, Juventus, Turin notamment. Pour le PSG, ce pourrait être Atlético de Madrid ou Manchester United, entre autres. À noter hier soir, la plus lourde défaite européenne à domicile de l'histoire du Real Madrid. 3-0 face au CSKA à Moscou, mais sans conséquence. Real qualifié, Moscou éliminé. Ce soir, Ligue Europa, épisode épilogue du premier tour, pôle d'intérêt. 18h55, Rennes, Astana, les Kazakhs, une victoire et les Bretons seront en 16e de finale. Plus compliqué pour les Bordelais à Copenhague, les Marseillais face à Limassol sont éliminés.
Et en Ligue 1, déjà 3 matchs reporté ce week-end.
Oui, en raison d'éventuels mouvements des Gilets jaunes et du plan Vigipirate Urgence Attentat, Caen, Toulouse, Nantes, Montpellier et Nice, Saint-Etienne pourraient suivre Marseille-Bordeaux prévu dimanche soir. Dijon PSG pour l'instant maintenu samedi 17h, en tout cas sur chacun des stades où cela jouera en Ligue 1 et Ligue 2. Une minute de silence sera observée en hommage aux victimes de Strasbourg.
Le handball féminin, Jérôme, et le rêve des Bleus prend forme.
Ce rêve d'accrocher à domicile le titre de championne d'Europe. Les voilà en demi-finale ce matin à la faveur hier soir d'un ultime succès en phase de groupe 38-20. Face aux Serbes, c'était à Nantes. La demi, c'est demain, 21h à Bercy, face aux Néerlandaises. Les Bleus sont en confiance. Elles marquent beaucoup, elles s'éclatent. Bref, victoire et sérénité. C'est le double effet Miss Cool dépeint par la joueuse Manon Wett.
Ça va être cool. On va essayer de se calmer pour le moment. Aujourd'hui, on est en demi, mais voilà, et tout reste à faire. C'est nul à dire, mais c'est vraiment vrai. Pour le coup, les Pays-Bas, on retrouve les Pays-Bas à chaque fois dans des matchs couperés.
Et oui, c'est néerlandaise que les Bleus avaient éliminé d'un point en demi-finale du dernier tournoi olympique. C'est fini pour les Bleus du hockey sur gazon au Mondial en Inde. Élimination en quart de finale 3-0 par les doubles champions du monde australiens.
On termine, Jérôme, avec une bien triste histoire du jour.
Le décès à peine 19 ans de Nicolas Chauvin, jeune espoir du Stade français rugby, décédé hier au CHU de Bordeaux. Dimanche, il subissait en plein match un violent plaquage, entraînant un traumatisme cervical et un arrêt cardiaque.
C'était le Journal des Sports. Merci à vous, Jérôme Lacroix. Allez donc vous reposer après cette éprouvante matinée. C'est vrai, c'est la fin de l'année. Dans la rédaction d'Europe 1, GG n'est pas le seul à commencer à accuser le coup. Il y a la fatigue accumulée, le stress, les nerfs qui lâchent. Et chez certains, les nerfs lâchent plus bruyamment que chez d'autres, comme on a pu le constater mardi à la fin de la chronique de Fabrice Dalméda.
Bah, allez, bonne journée à tous.
Fabrice Almeida, dont on espère qu'il va mieux. Il doit nous parler d'Henri IV ce matin, mais est-il en état? On croise les doigts.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Almeida.
Bonjour.
Ce matin, c'est l'anniversaire d'Henri IV, un souverain qui pourrait être un modèle aujourd'hui.
Oui, c'est le roi qui a surmonté toutes nos divisions. Il est né le 13 décembre 1553 d'un père catholique et d'une mère calviniste. On lui aurait frotté les lèvres à l'ail pour le fortifier. Et il en a eu bien besoin, car quelques années plus tard, quand il devient roi de France, en 1589, les trois quarts du royaume ne le reconnaissent pas et même Paris soutient ses adversaires. Les guerres de religion entre catholiques et protestants font rage. Chaque ville, chaque province, chaque grand seigneur n'en fait qu'à sa tête. Les Espagnols entrent même dans le pays pour soutenir les catholiques. Pour en sortir, Henri IV s'appuie d'abord sur les protestants. Il combat les Espagnols et leurs alliés, assiège même sa propre capitale, Paris, mais il emploie aussi la négociation.
Quelle est sa méthode?
Alors que la guerre continue, il réunit des représentants de toute la France pour que les modérés fassent pression sur les radicalisés. Ce seront les États généraux, puis l'Assemblée des notables de Rouen en 1596. Là, tout le monde économique est réuni. Après avoir suivi les débats, Henri IV et ses conseillers proposent des mesures neuves, comme créer des chambres de commerce, pour restaurer la confiance économique et en échange, demander des subsides.
Et comment Henri IV a-t-il mis fin aux guerres de religion?
Alors en plusieurs points. D'abord, il se convertit au catholicisme, puis se fait sacré roi en 1594. Et surtout, avec réalisme, il impose la tolérance grâce à l'édit de Nantes en 1598. Les protestants y gagnent des garanties de sécurité, les catholiques des avantages territoriaux.
Et pour les impôts?
Alors là, plus personne n'y échappe. Avec Sully, son surintendant des finances, Henri IV utilise même des troupes pour récupérer les versements bloqués par des nobles. Le pays peut alors restaurer sa puissance et même retrouver une influence en Europe, une réussite enviable dans les tensions actuelles.
Merci Fabrice Almeida, l'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain, juste avant 6h15.
Europe 1, il est 6h17, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2h d'infos, d'éclairage et d'interview. À 6h20, après une deuxième nuit de traque pour retrouver Shérif Chekat, le suspect dans l'attaque de Strasbourg mardi soir, nous serons en ligne avec Farhad Khosrokavar. Il est directeur d'études à l'EHESS et directeur de l'Observatoire de la radicalisation à la Maison des sciences de l'homme à Paris. Avec lui, on tentera de cerner le profil du suspect. On a beaucoup dit qu'il s'était radicalisé en prison. Est-ce vraiment le cas? Pourquoi est-ce devenu si difficile de repérer les détenus en phase de radicalisation? On en parle donc dans quelques instants. Mais d'abord, Céline, détendons-nous un peu avec le jeu.
Eh oui, tout au long de la journée sur Europe 1, il y a les vraies pubs pour payer votre salaire, Mathieu Noël, et les fausses pour que chez vous, vous puissiez jouer.
Écoutons donc la fausse pub diffusée hier et pendant ce temps, je réfléchis à une façon efficace de vous punir de votre insolence.
Relisez votre contrat d'assurance. Bon, il est long. Très long. Prenez votre temps, il y a une chance sur 100 000 que vous ayez souscrit à la garantie émeute et mouvement populaire. En général, si elle est mentionnée, elle figure dans les contrats, page 3257, alinéa Z en tout, tout petit. Personne ne la voit, personne n'y souscrit.
Pourtant, si demain votre commerce, votre véhicule ou votre beau-frère est victime de casseurs, qui paiera les frais?
Heureusement, nous avons pensé à vous. Arnaca, le numéro 1 mondial de l'assurance en ligne, vous propose son assurance émeute et mouvement populaire.
Casseurs, cassés. Arnaca remplacera.
Et oui, c'était donc la fausse pub. Alors Céline, quand on entend cette fausse pub, qu'est-ce qu'on fait? Parce que chaque matin, j'oublie. Mais rappelez-moi.
Oui, je vous le rappelle, c'est très simple. Vous envoyez pub par SMS au 739-21, 75 centimes plus le coût du SMS, ou alors vous appelez le 39-21, 50 centimes par minute à gagner le tout dernier MacBook Air, le top du top. Il est 6h19, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
La police nationale a lancé un appel à témoins pour retrouver le suspect de l'attentat de Strasbourg, Shérif Chekat, né à Strasbourg et fiché S. Le jeune homme de 29 ans a un passé judiciaire très lourd, avec déjà pas moins de 27 condamnations. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé le déploiement de 1800 militaires supplémentaires dans le cadre de l'opération Sentinelle. Dans l'actualité également, la Première ministre Theresa May a survécu à un vote de défiance organisé par son parti conservateur, hostile à son accord de Brexit conclu avec Bruxelles. Et puis, en football, Lyon qualifié en 8e de finale de la Ligue des Champions. Les partenaires de Nabil Fekir, buteur, ont accroché le Shakhtar Donetsk hier soir, un partout à Kiev.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce 13 décembre 2018. Depuis mardi soir, les forces de l'ordre sont donc à la recherche de l'auteur présumé de l'attaque en plein cœur de Strasbourg, de cet homme natif de Strasbourg. Nous savons qu'il est fiché S, inscrit au fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste, condamné 27 fois pour des vols et des violences, surtout en France, mais aussi en Allemagne et en Suisse. Il avait été signalé en détention en 2015 pour sa radicalisation et son prosélytisme religieux. Bonjour Farhad Khosrow-Kavar.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'études à l'EHESS et directeur de l'Observatoire de la radicalisation à la Maison des sciences de l'homme à Paris. Alors tout d'abord, on a parlé de radicalisation en prison pour ce suspect 29 ans. Est-ce que déjà, selon les informations dont vous disposez, c'est vraiment le cas ?
Je ne le crois pas. Je crois qu'il a été fondamentaliste ou hyper fondamentaliste en prison. Il a été intolérant, si vous voulez, vis-à-vis des autres détenus. Vis-à-vis des autorités carcérales, il refusait de manger du porc et surtout il était prosélyte. Ça, c'est le fondamentalisme. Ce n'est pas la radicalisation. La radicalisation, c'est quand vraiment on veut lutter contre la société, si vous voulez, par les armes. En Allemagne, on n'a vu rien de tel. Et par ailleurs, le ministère de l'Intérieur aussi affirme qu'il n'y a pas eu de soupçon que cette radicalisation pourrait déboucher sur la violence. Moi, je crois que c'est l'hyperfondamentalisme et surtout, c'est un cas à part, si vous voulez, des jeunes ou des individus qui vont dans le sens de la rupture avec la société, à savoir se servir de l'islam comme d'un leitmotiv afin de se faire un nom, de se faire une sorte de notoriété quand ils en ont marre et qu'ils veulent en découdre avec la société. Alors, on a plusieurs autres cas d'individus, si vous voulez, de braqueurs, enfin de criminels qui ont eu recours au dernier moment, si vous voulez, à Allahu Akbar, par exemple, pour être sûr d'être entendu par la société. Et c'est son cas.
Est-ce que ça veut dire que, selon vous, il est en dehors d'un quelconque réseau ? C'est un individu isolé, un loup isolé, comme on dit parfois ?
Il n'est pas un loup isolé. On n'a pas de loup isolé, mais je veux dire, ce n'est pas de la radicalisation dans le sens de l'islamisation à outrance, avec la notion de djihad qui serait au centre de gravité de leur pensée et de leur mode d'action. Par exemple, pour ce qui est des attentats de novembre 2015, on a eu des individus qui ont été en Syrie, qui ont été formés, qui ont été vraiment idéologisés et qui ont été de retour et qui ont fait cela avec préméditation. Dans son cas, je doute que la préméditation ait été un élément fondamental. On a arrêté tous ses collègues qui avaient trempé dans un règlement de compte et le matin, il était absent de chez lui. Et c'est un coup de tête. Ce n'est pas une préméditation avec un passé de djihadiste avéré.
Mais alors, Farhad Khosrow-Kavar, c'est presque plus inquiétant encore parce que c'est plus difficile à repérer un profil de ce type-là. C'est quelqu'un qui n'a pas été en Syrie. Il devient fondamentaliste, mais un peu en dernier recours quelque part. Et comment on peut repérer, comment on peut guetter ce genre de profil ?
À mon avis, ce genre de profil est marqué par ce qu'on pourrait appeler une forme de criminalité, de récidive, de récurrence de ce type d'action. Et puis, à un moment donné, le sentiment ou le désespoir ou la révolte contre cet état de fait et la volonté d'en découdre. Et puis surtout, ce sont des jeunes, lui il a 29 ans, il est jeune mais il n'est pas très jeune, mais dans l'ensemble c'est aux alentours de 25-26 ans en Europe, ou 27 ans en Europe si vous voulez, la moyenne d'âge de ces des radicalisés. Il est d'origine immigrée, il a le sentiment d'être stigmatisé, il a le sentiment d'être rejeté par la société, et il réagit, si vous voulez, à cela à un moment donné où il a l'impression qu'il n'a plus d'avenir. Lui, il a eu 27 incriminations, condamnations en France, en Angleterre, en Allemagne et en Suisse. Et à un moment donné, il a le sentiment qu'il va être remis en prison pendant très longtemps, puisque avec le cumul des récidives, on perd en grande partie de sa capacité de se justifier. Et par conséquent, il passe à une action violente et il crie Allahu Akbar parce que cela lui assure la couverture des médias dans le monde entier.
Et Varrock ?
Est-ce que vous qui connaissez parfaitement ce sujet, ce type de profil est répandu dans les prisons en France aujourd'hui ?
C'est pas seulement répandu en France, mais je dirais que c'est répandu un peu en Europe. Une grande partie des individus qui ont trempé dans ce qu'on a appelé le djihadisme si vous voulez, ont eu un passé carcéral extrêmement important. Parmi eux, il y en a qui sont de vrais radicalisés, c'est-à-dire qu'ils ont fait en prison une sorte de réflexion prolongée sur le djihad et ont été marqués par cela. Et il y en a d'autres qui ne font pas, si vous voulez, de cela le centre de mire de leur vie, mais qui passent à l'action violente parce qu'ils en ont marre.
Pour finir, Farhad Khosrokhavar, pardon, pour finir, le suspect a pris la fuite, il ne s'est pas retranché, il ne s'est pas suicidé. D'après le profil psychologique de cet individu, vous imaginez quel dénouement dans cette affaire?
À mon avis, cela dépend aussi de la façon dont il va affronter les forces de l'ordre. Il est possible qu'il aille jusqu'au bout, qu'il se fasse tuer. On a des cas comme ça. Ou bien qu'il se fasse arrêter. Par conséquent, c'est imprévisible. Ce dont on peut être sûr, c'est que son islam, si vous voulez, n'est pas quelque chose qui aurait été au centre de sa vie. Sa pratique religieuse et tout ça, ça a été extrêmement dilué.
D'accord. Merci infiniment, Farhad Khosrokhavar, d'avoir été avec nous en direct en ligne sur Europe 1. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Le Nouveau Djihad en Occident, paru chez Robert Laffont. Merci encore.
Europe 1, il est 6h26, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de David Doucan. La météo revient et cette fois, le froid est là.
Il est 6h27, Mathieu Noël.
Juste avant le journal de 6h30, la météo de Céline Dacosta, une journée assez lumineuse sur le nord-est.
Oui, et la pointe nord également, avec des éclaircies déjà ce matin pour le nord-est. On aura quand même pas mal de grisaille. Attention également au brouillard givrant. La grisaille restera un petit peu présente localement cet après-midi entre la Picardie et le Grand Est, mais les éclaircies perceront aussi. Et elles seront d'ailleurs largement présentes de la Normandie à la Franche-Comté ce matin comme cet après-midi. Pour l'ouest, là c'est un autre scénario, pluvieux, avec déjà ce matin de faibles averses sur toute la façade atlantique. Ces averses s'étendront à tout le sud-ouest jusqu'au massif central et près de la Méditerranée, avec un petit peu de vent sur les côtes, de la pluie également pour la Corse. Et puis il va neiger sur le massif central et les Pyrénées, quelques flocons également pour les Alpes.
Un mot des températures.
Qui reste froide, hein, ça va se radoucir ce week-end. En attendant, la moyenne ce matin va de moins 3 à 5 degrés sur la moitié nord. 5 à 10 degrés, ça c'est pour la moitié sud. Cet après-midi, on attend un petit degré à Metz, 2 degrés à Paris, à Reims, à Lille, 4 degrés à Nantes, 6 à Brest, il en fera 8 à Nîmes, 9 à Bordeaux, 10 à Perpignan, 12 à Toulon et 15 degrés pour Ajaccio.
Merci Céline, restez avec nous dans une minute, le journal de 6h30. Vous écoutez Debout les copains, 2 heures où l'info et le rire fricotent dangereusement et sans l'aval de leurs parents, et ce avec la bénédiction d'Eva Rock et Céline Dacosta, sorte de Catherine et Liliane trash. Deux collègues qui commandent tout le temps. Mardi, c'est la question posée par Eva à nos auditeurs. Si vous pouviez personnaliser un timbre à l'effigie de qui le feriez-vous? Qui a fait réagir? Une question qui, pour Céline, n'appelait qu'une seule réponse.
Si vous pouviez choisir un homme, une femme ou un événement que vous mettriez sur un timbre, ce serait quoi?
Je suis étonnée que t'aies pas un message du genre « je mettrais machin pour aller chez ce... »
J'ai pas pensé à ça.
Catherine et Liliane en version hardcore. À suivre, on tâchera de prendre, rassurez-vous, un peu de hauteur. Politique, économie, médias, nos trois fantastiques trépignent d'impatience. Au programme, notamment ce matin, un chiffre, 90% des Français veulent lutter contre les propos haineux sur Internet et une volonté, faire exploser la forteresse technocratique, nouvel objectif politique d'Emmanuel Macron. Ce sera juste après le journal de celui qui hésite de plus en plus entre le journalisme et le music hall et qui nous le prouve chaque matin en nous envoyant des messages sur Twitter comme s'il n'avait que ça à faire.
Et puis on a reçu un message d'un certain David Doucan qui nous dit « Moi, je mettrai Mathieu Noël, comme ça, il sera officiellement timbré.
» Sacré David Doucan.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 avec vous, David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
L'ennemi public numéro 1 s'appelle Shérif Shekat. Il mesure 1m80, cheveux noirs, teint mat, avec une marque sur le haut du front. La police a lancé un appel à témoins. Le tueur présumé reste à 7h introuvable. Il est soupçonné d'avoir mardi soir assassiné 2 personnes. Une autre est dans un état de mort cérébrale. Il s'appelle Kamal. Il avait fui la guerre d'Afghanistan. Il a été touché d'une balle dans la tête devant sa famille. La France est donc une nouvelle fois ensanglantée, le terroriste présumé est dans la nature. Dans ce contexte, que vont faire les gilets jaunes? Manifester samedi ou s'abstenir? Ils sont divisés sur la question.
Europe 1.
Son visage, son nom sont diffusés le plus largement possible depuis hier soir. Les 720 hommes déployés n'ont pour l'instant trouvé aucune trace de Shérif Shekat. Vous le savez, après avoir tiré sur les soldats de Sentinelle, il a forcé un taxi à l'emmener dans le quartier de Neudorf à Strasbourg. Une fois dans ce secteur où d'ailleurs il avait passé toute son enfance, le tueur présumé a à nouveau ouvert le feu, mais sur la police cette fois, puis il a disparu. Alors, depuis 36 heures, une partie des recherches se concentre sur cette zone. Reportage avec les forces de police, Arthur Mbaché.
La camionnette avance lentement, très lentement. Il fait nuit, des projecteurs sur le toit du véhicule éclairent les façades à gauche et à droite dans les ruelles du quartier. Et quand ça leur semble nécessaire, les policiers ouvrent la porte et sortent, lampe torche à la main. Ils cherchent. C'est ici qu'ils ont perdu la trace de Shérif Shekat avant-hier soir, dans ce quartier de petites maisons et jardins imbriqués, l'endroit où le fugitif strasbourgeois a passé son enfance. Et donc, parmi les centaines d'hommes mobilisés sur la traque, parallèlement à ceux qui s'occupent des contrôles aux frontières, parallèlement au travail du raid ou de la police scientifique, cette patrouille qui semble, il faut le dire, bien modeste compte tenu de l'ampleur de la tâche, alors que le quartier n'est plus du tout bouclé comme 24 heures plus tôt, les gens, les cyclistes vont et viennent librement. Un agent éclaire l'intérieur d'un monospace, un autre tente de distinguer des objets dans une arrière-cour avant d'observer le toit d'un garage. Après une demi-heure, la camionnette s'en va. C'est une chasse à l'homme, nous glisse un policier. La traque continue. Strasbourg, Arthur Mbaché, Europe 1.
La frontière avec l'Allemagne est verrouillée. Chaque véhicule est systématiquement fouillé. Les autorités ont donc, je vous le disais, lancé un appel à témoins, largement diffusé sur les réseaux sociaux et dans les médias. On y voit la photo de Shérif Shekat. Attention, individu dangereux surtout, n'intervenez pas vous-même, peut-on lire sur l'affiche. Toute personne en possession d'informations est invitée à composer le numéro 197. 197.
Voilà pour le suspect. Parlons maintenant de ses victimes, David.
Oui, on déplore 2 morts, 12 blessés, dont 6 sont toujours en urgence absolue. Et puis, il y a Kamal, un quadragénaire, père de famille, d'origine afghane. Il avait obtenu la nationalité française. Mardi soir, Shérif Shekat a visé la tête. Kamal est en état de mort cérébrale. Pierre Herbulot.
Il a fui la guerre en Afghanistan. Il va mourir en France d'une balle dans la tête. Kamal a 30 ans quand il débarque à Strasbourg en 2004 avec ses parents. C'est un nouveau départ. Il se marie, fait des enfants, 2 garçons, 1 fille et monte son entreprise, un garage automobile dans le quartier de la Méno. Un vrai dingue de travail très professionnel. C'est là qu'il était heureux, raconte l'un de ses proches à l'hôpital. Ils ne sont pas moins d'une centaine à se succéder à son chevet hier. Amis, voisins ou encore cousins. Comme David.
C'était un très bon vivant, c'était quelqu'un qui a fait du mal à personne, sur qui on pouvait compter, qui aidait les gens au quotidien, c'était une personne dynamique, c'est dégueulasse, c'était pas le moment pour lui, c'est tragique parce que ça arrive devant sa femme et ses enfants, et ça je vous dis c'est inhumain. Une personne qui est constituée normalement, quelle que soit la religion, ne doit pas faire ça.
La religion, partie intégrante de la vie de Kamal, il fréquentait assidûment la mosquée de Strasbourg. La quarantaine passée, il avait toujours un physique de sportif, grâce au volley, au foot et à la piscine où il allait tous les dimanches matins avec ses enfants. C'est pour eux qu'il était au marché de Noël au moment de l'attaque, pour leur montrer la beauté des décorations.
Pierre Herbulot pour Europe 1. Voilà donc la France une nouvelle fois ensanglantée par le terrorisme. La menace n'avait jamais disparu. Mais là, celui qui est passé à l'acte est toujours dans la nature. C'est ce contexte qui percute la crise sociale que traverse le pays. Les gilets jaunes vont-ils, malgré tout cela, faire exister l'acte 5 de leur mouvement samedi prochain, avec les débordements de violence qui ont, jusqu'à présent, systématiquement accompagné les manifestations. Les militants les plus radicaux ne veulent rien entendre. D'autres, au contraire, veulent une pause. Le mouvement des gilets jaunes est divisé. Reportage à Lille, Lionel Gougelot.
Dès mardi, Thibaut Véron a lancé les inscriptions pour les bus à destination de Paris et la manifestation de samedi, mais le responsable de cette entreprise associative de transport est bien obligé de constater que le risque terroriste a sans doute refroidi les candidats.
La semaine dernière, on avait déjà un bus qui était plein dès l'ouverture des réservations. Pour samedi prochain, ce n'est pas le cas. Il y a de grandes chances qu'il n'y ait qu'un bus, voire 0 bus. Donc je pense qu'effectivement, il y a une prise de conscience et puis que l'attentat de Strasbourg a dû calmer un peu les ardeurs. Puis de toute façon, s'il y a moins de manifestants, la police pourra mieux maîtriser les casseurs.
Moins de gilets jaunes nordistes à Paris, peut-être, mais que le gouvernement n'espère pas tirer parti de cet attentat pour affaiblir le mouvement, prévient Julien Langlais, animateur d'un groupe à Tourcoing.
C'est-à-dire que ils font peur aux gens en disant il y a des risques, etc. Donc les gens vont se dire on va pas sortir de chez nous parce qu'on a des familles, tout ça, je peux concevoir. Je veux dire, on a des familles à protéger. Mais derrière, faut pas vivre avec la peur en permanence. Faut aussi se dire que si on défend pas nos droits à l'heure actuelle, on n'aura plus rien. C'est juste que là, le peuple commence à se lever petit à petit. Il faut qu'ils réagissent vraiment à ce qui se passe à l'heure actuelle.
Samedi prochain, lors de leur manifestation à Tourcoing, les Gilets jaunes porteront un brassard noir en solidarité avec les victimes de l'attentat, mais aussi, disent-ils, des violences policières. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Outre la menace terroriste, il y a aussi eu la réponse d'Emmanuel Macron. Une douzaine de milliards d'euros de dépenses publiques en faveur du pouvoir d'achat que le gouvernement va devoir essayer de financer s'il ne veut pas voir le déficit totalement déraper. Et selon les informations d'Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1, le pouvoir envisage de faire une pause dans la baisse de l'impôt sur les sociétés. Le taux devait diminuer dès 2019. Les entreprises pourraient bien avoir à attendre 2020.
À suivre dans ce journal, la vie trépidante de Theresa May. La première ministre britannique a survécu hier soir, mais pour combien de temps ? À tout de suite.
Europe 1, 6h37.
La suite du journal David Doucan, God Save Theresa. Theresa May a sauvé sa tête hier soir.
Oui, elle a gagné une bataille. Le vote de défiance organisé par son propre parti n'a pas recueilli la majorité au Parlement. Cependant, ce sont tout de même un tiers des députés conservateurs qui ont voté pour la désavouer. La voilà donc, certes toujours vivante, mais terriblement affaiblie, alors que commence aujourd'hui un sommet de deux jours à Bruxelles où elle essaiera d'obtenir de nouvelles concessions de la part des 27. Récit et explication de notre envoyé spécial à Londres, Sébastien Krebs.
Theresa May garde donc la confiance de ses députés. Voilà le résultat salué par des applaudissements. Mais en réalité, c'est un retour à la case départ. Cela ne règle rien. D'abord parce qu'ils sont plus d'un tiers dans son propre camp à avoir voté pour la renverser, c'est beaucoup. Ensuite, parce qu'on ne voit toujours pas de scénario de sortie de crise. La première ministre n'aura sans doute jamais de majorité pour faire voter l'accord sur le Brexit en l'état. Et les Européens répètent qu'il n'y a rien à renégocier. Même si devant Downing Street hier soir, Theresa May tentait de jouer l'optimisme.
J'ai entendu ce qu'ont dit les députés à propos de l'Irlande du Nord. Et je vais chercher au Conseil européen des assurances qui lèveront les inquiétudes.
De toute façon, c'est moi ou le chaos, répétera-t-elle probablement encore aujourd'hui à Bruxelles pour tenter d'arracher quelques ajustements. Mais elle arrive forcément affaiblie. Si les conservateurs ne pourront plus réitérer ce type de vote de confiance pendant un an, l'opposition travailliste, elle, réfléchit toujours à une motion de censure. Londres, Sébastien Krebs, Europe 1.
Je sais que ça vous tient à cœur, David. Les handballeuses françaises sont en train de réaliser un beau parcours.
Oui, elles sont chez elles pour ce championnat d'Europe de hand féminin organisé en France. Elles ont dominé la Serbie 38 à 28. Les voilà donc en demi-finale face aux Pays-Bas vendredi à Bercy. Leur détermination est totale. Christophe Lamar.
C'était leur premier objectif, revenir à Paris et jouer les demi-finales. Les Bleus retrouvent la capitale ce matin, mais elles ne sont pas encore là où elles voudraient être. Depuis le début de cet Euro, on entend régulièrement la même chose. De Nancy, où a commencé leur aventure, jusqu'à Nantes, des couloirs de l'hôtel jusqu'en zone d'interview, la même formule, aller au bout. Autrement dit, décrocher le titre de championne d'Europe un an après avoir conquis celui de championne du monde. La saveur d'un sacre à domicile est quelque chose de très particulier. C'est aussi le ciment de ce groupe, même si la conscience que l'actualité dramatique des dernières semaines et des derniers jours, éclipse un peu son épopée. Entre soulèvement populaire et attentats terroristes, les Bleus évoquent souvent cette France malmenée. Pas facile de rester dans sa bulle, mais elles tiennent tellement à cet euro qu'elles feront tout pour le gagner. Nantes, Christophe Lamar, Europe 1.
Et un résultat de football pour finir. Les Lyonnais rejoignent le Paris Saint-Germain en 8e de finale de la Ligue des Champions. Une qualification obtenue hier soir grâce à un match nul, un partout, face aux Ukrainiens de Donetsk.
C'était le journal de David Doucan, journaliste à l'érudition étonnante et polymorphe, qui n'a ma foi qu'une limite. Un bémol, la géographie. Oh. C'est le talon d'Achille de David, à qui j'apprenais le jour une spécialité locale pourtant bien connue.
Ça se fait à caler la dentelle ?
Bah oui.
Ok. Joe la Géo.
Mais ne vous minez pas, Joe la Géo. On ne peut pas être bon partout. Vous restez le meilleur en jokari. On passe à la météo. Céline Dacosta.
Oui.
Aujourd'hui, de la pluie dans l'ouest, dans le sud et du beau temps dans le nord-est.
Vous avez tout retenu, c'est très bien. Oui, oui. Une nouvelle perturbation qui arrose toute la façade atlantique dans la matinée. Ces pluies gagneront tout le sud-ouest, le massif central, le Languedoc-Roussillon, la région PACA et la Corse dans l'après-midi. Pour les autres, ce sera nuages et éclaircies, mais avec ce matin encore pas mal de grisailles dans le nord-est et des brouillards localement givrants. Des petites gelées, on en a d'ailleurs souvent ce matin sur la moitié nord, avec des températures froides qui vont de moins 3 à 5 degrés, 5 à 10 degrés pour la moitié sud. Et puis cet après-midi, la moyenne va de 8 à 14 degrés pour la moitié sud, 2 à 6 degrés, ça reste très frais pour la moitié nord.
Eva Rock.
Le 13 décembre 1920 naissait la société Haribo. Alors on a demandé aux auditeurs pour quel bonbon ils craqueraient, quel est celui qui a marqué leur enfance. Et bien Suzy nous a répondu, le réglisse, vous savez, en escargot que l'on mange doucement en le déroulant. Voilà.
Ah, j'ai cru un vrai escargot.
Mais non,
tout
pas
à coup,
un
ça
vrai
m'intéressait.
Escargot. Ça revient tout le temps, les rouleaux de réglisse. Voilà.
Merci Eva.
Merci.
Et merci aux auditeurs.
Saint-Quentin.
Il est 6h43, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures pour tout savoir de l'actu sans jamais oublier d'en rire. À suivre. Politique, économie, médias, quand vous vous sentez dépassé par les événements, ils sont là pour vous aider à y voir plus clair. Les trois fantastiques arrivent avec notamment ce matin un chiffre. 90% des Français veulent lutter contre les propos haineux sur Internet et une volonté, faire exploser la forteresse technocratique. Nouvel objectif politique d'Emmanuel Macron.
Il est 6h44, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
C'est un deuxième jour de chasse à l'homme qui débute. L'ennemi public numéro 1, Chérif Chekat, est introuvable. La police a lancé un appel à témoins. Si vous avez des informations pour le localiser, n'intervenez pas vous-même, mais appelez les autorités en composant le 197. Malgré les appels du gouvernement à la responsabilité, de nombreux gilets jaunes disent vouloir maintenir l'acte 5 de leur mobilisation samedi. Ils expriment leur solidarité avec les victimes de Strasbourg, mais restent déterminés à faire entendre leur colère, malgré les mesures annoncées lundi soir par Emmanuel Macron. Enfin, Theresa May a survécu vote de défiance déclenché hier soir par son propre parti, mais impossible pour elle de faire adopter l'accord de Brexit par cette majorité. Sa seule chance, c'est d'obtenir de nouvelles concessions de la part des 27. Elle s'exprimera cet après-midi devant eux lors d'un sommet à Bruxelles. Les chefs d'État et de gouvernement se réuniront ensuite sans elle pour évaluer ce qu'ils peuvent lui offrir.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains et à 6h45, Eva Rock.
J'aurais adoré qu'on écoute Sacha Distel. Hein.
Oui, enfin, heureusement, bah oui. C'est moi qui choisis, donc on va plutôt écouter les trois fantastiques. Insolente Dream Team. Michael Darmon pour la politique, Axel de Tarlé pour l'économie, Eva Rock pour la télévision.
Et ça, c'est pas de la guignotte.
Comme vous dites, Céline, et comme je sais que c'est votre chouchou, que c'est avec un homme comme ça que vous auriez voulu vivre.
Oui, ou Rejane. Hein.
Michael Darmon, on aurait pu commencer par vous si vous aviez été là.
Mais non.
Mais comme Michael n'est pas là, on va commencer par Axel, que vous aimez aussi beaucoup finalement, Céline.
Oui, je l'adore.
Presque autant que Rejane, ce qui n'est pas peu dire.
Surtout mes chroniques.
Alors Axel, vous nous parlez ce matin du fléau des messages haineux qui sévissent sur Internet. Et surtout, comment y répondre?
Ben oui, parce qu'on croit que les messages haineux, ça ne concerne que quelques journalistes qui les recevraient ou les hommes politiques. En fait, c'est un phénomène massif. Figurez-vous que c'est l'ASIC, l'Association des services Internet communautaires, qui regroupe Facebook, Google, Microsoft, etc., qui a voulu mesurer ce phénomène et qui a commandé une enquête à OpinionWay, qui est relayée ce matin dans le Figaro. Enquête qui montre que 6 Français sur 10 disent avoir été la cible d'insultes sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez, c'est un phénomène haineux et qui touche tout le monde. On sait très bien qu'il y a des phénomènes de harcèlement contre les enfants à l'école. Mais même, il y a des tas de messages haineux anonymes. Vous savez, on appelle ça les trolls. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Donc ce sont des personnes sur Internet dont le plaisir est de poster en permanence des messages haineux parce qu'ils savent que ces messages vont blesser puis ça leur procure un petit plaisir. Donc que faire par rapport à ça? Parce qu'il y a dans cette même enquête, 9 Français sur 10 disent qu'il faut une réponse forte des pouvoirs publics. Alors effectivement, on sait que le gouvernement prépare une loi. Il y a eu un rapport parlementaire en septembre dernier qui a dit qu'il faudrait s'inspirer comme en Allemagne et faire en sorte que les plateformes soient responsables et que ces messages haineux soient retirés, soient supprimés en moins de 24 heures sous peine d'avoir une amende. Alors en Allemagne, l'amende est de 50 millions d'euros pour la plateforme quand même. Ça fait cher le message.
Et est-ce qu'on ne peut pas quand même agir en amont, faire en sorte que ces messages haineux tout simplement n'apparaissent pas?
Alors vous avez raison, parce qu'une fois que le message haineux et qu'on l'a lu, c'est trop tard. On s'est pris l'insulte et bon, même si elle est supprimée en 24 heures, on l'a quand même lu. Donc on a une vision négative. Alors, il y a des sites internet comme Instagram, par exemple, qui commencent à se dire qu'il faut faire quelque chose et Instagram a installé un filtre de bienveillance. C'est-à-dire que les commentaires qui s'en prennent à votre physique, par exemple, tiens, je ne vais pas les faire les messages haineux, moi. Et bien du coup, ils sont effacés. Donc vous voyez, les sites internet eux-mêmes ont tout intérêt à ce que ces messages soient moins haineux et moins violents, parce que d'abord, ça véhicule une image négative auprès des utilisateurs et auprès
des annonceurs. Les annonceurs,
c'est les pépettes. Donc là, c'est pas bon. Vous voyez, parce que quand même, ce chiffre pousse à réfléchir. 6 Français sur 10, donc 3 Français sur 5, disent avoir été victimes d'insultes sur les réseaux sociaux. C'est énorme.
Et alors, c'est encore plus frappant actuellement, parce que c'est vrai qu'avec la crise des Gilets jaunes, par exemple, où il y a beaucoup d'antagonisme dans la société française, il y a une multiplication de ces messages haineux. Et moi, je n'avais jamais vu autant de messages de la sorte, notamment sur Twitter, parce que c'est un des réseaux sur lequel ça passe le plus facilement.
Sauf pour les 3 fantastiques, il n'y a aucun message haineux qu'on nous concerne.
C'est vrai.
C'est que des messages de félicitations et de bienveillance.
Ils sont filtrés de la direction. On n'aura pas les filtres.
Voilà. Merci,
on reçoit que les messages gentils, nous. Et Baroc, on va parler télé avec vous.
Oui.
Qu'est-ce qu'on regarde ce soir?
Écoutez, je ne me serais sans doute pas arrêtée sur ce documentaire de Daniel Bouy qui s'appelle « Va voir le délégué » qui est diffusé ce soir sur LCP à 20h30, mais vous allez comprendre. C'est un documentaire où le réalisateur est parti à la rencontre de 5 syndicalistes. Mais en fait, à l'heure de la crise des Gilets jaunes, et vous savez, cette défiance que nous constatons à la fois à l'égard des partis politiques et des syndicats, j'ai trouvé qu'il était intéressant en fait, d'entendre ces personnes qui s'engagent au quotidien
pour défendre les droits des salariés. Comme Sébastien, il est facteur et militant au sein de Sud PTT.
Moi, c'est vrai que j'ai choisi facteur, c'est qu'en fait, je ne me voyais pas travailler dans une boîte dont le seul but était de faire du pognon. Et le mandat syndical, c'est un prolongement de ça. C'est dire que les êtres humains, ils naissent sur Terre, tout n'est pas que production, productivité et CAC 40.
Alors vous allez le voir, les motivations des uns et des autres sont extrêmement différentes. Il n'empêche que leur engagement est total, parfois excessif, et leur vie de famille souvent bousculée par ces heures de militantisme. Leur parcours démonte surtout les clichés qu'on a souvent, vous savez, du syndicaliste un peu râleur, rétrograde, voire agressif. Et le documentaire est d'autant plus intéressant qu'il aborde par ailleurs l'évolution des syndicats. Quelles sont les attentes des salariés par rapport aux différentes organisations ? Olivier, par exemple, il est délégué FO à l'hôpital d'Amiens. Il ne cache pas un certain désarroi.
C'est du service, du conseil. C'est un peu, on vient un peu cotiser au syndicat comme on cotise à une assurance, hein, et on attend en échange un service. Hein. C'est fini un peu le temps des barricades, des grands idéaux et des grandes défenses, la défense du statut, tout ça. Ça devient compliqué pour nous à gérer tout ça. Hein.
Axel, vous
oui,
dire
non,
quelque
mais
chose,
parce ouais. que vous parliez de l'image négative qu'on a des syndicats. On s'en est tous rendu compte avec précisément ce mouvement des Gilets jaunes. Il faut voir comment les Gilets jaunes ont repoussé les syndicats qui voulaient parfois aider de bonne foi
oui.
à structurer le mouvement des Gilets jaunes, à apporter des solutions, parce que c'est pas
oui,
tout
mais
de
les
râler.
Les Gilets jaunes avaient l'impression que c'était récupéré par les syndicats, oui, que leur
exactement.
Colère était récupérée.
Ben justement, parce qu'ils ont une image négative. Mmh. Et c'est bien dommage, parce que les syndicats montrent qu'ils peuvent obtenir
des avancées
ouais. pour leur... Enfin, ils en ont obtenu énormément.
Oui, ils ont,
et
historiquement,
ils ont montré aussi, je le disais hier, qu'ils sont capables aussi de structurer un mouvement et d'éviter les débordements. Enfin, la CGT en creux, on s'aperçoit que quand elle est capable d'organiser une manifestation avec 1 million de personnes, sans débordement, sans vitrine brisée, sans voiture qui brûle. Donc vous voyez, moi je me suis rendu compte avec ce mouvement des Gilets jaunes que franchement la CGT a un vrai savoir-faire en termes de maintien de l'ordre oui. et est capable d'organiser des manifestations sans voir ces images épouvantables qu'on a vues ces derniers samedis.
Et alors justement, c'est pour ça que je vous parlais de ce documentaire, parce qu'il est très simple hein, sur la forme, mais on retient vraiment les 5 portraits de femmes et d'hommes qui sont enthousiastes malgré la difficulté de leur mission, des salariés qui ont vraiment décidé de consacrer leur temps aux autres au profit d'un collectif et non pas d'une entreprise individuelle. Alors pour autant, si vous avez envie quand même de vous offrir une séance cinéma à la télé, mm-hmm. il y a aussi d'autres programme. Ah. TMC diffuse par exemple à 21h Charlie et la chocolaterie,
fabuleux
film de Tim Burton, exactement, vous pouvez laisser vos enfants devant. Et puis France 3, Mystic River, le film de Clint Eastwood que j'adore oui. aussi.
Un des meilleurs de Clint Eastwood,
voilà.
À mon
et
sens.
Puis Canal+, je voulais vous l'indiquer aussi, lance sa nouvelle série qui est adaptée du roman d'Elena Ferrante, L'amie prodigieuse, et je vous propose d'en reparler dans les prochains jours.
Vous l'avez
voilà.
vu ou pas ?
Non, parce que j'ai pas eu le temps de la regarder en entier, donc je voulais
ben oui. C'est vrai que les journées font que 24 heures.
Exactement, malheureusement, j'ai envie de vous dire.
Il vaut bien ménager quand même 2 heures pour dormir. Merci Eva. Ah, on me signale qu'on a Mickaël Darmon en ligne. Il est avec nous et il va pouvoir procéder à son édito politique. Visiblement, il a un message pour Emmanuel Macron.
Si j'étais président de la République, j'écrirais mes
intéressant, Mickaël. Ben, intéressante analyse, Mickaël Darmon. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup, Mickaël. Merci, Eva Roque. Merci, Axel de Tarlé. Car, comme le dirait élégamment Céline.
Eux aussi, ils l'ont mis dans le mille.
Les trois fantastiques seront de retour demain, un peu avant 7h moins le quart.
Bravo.
Il est 6h52, Mathieu Noël.
Debout les copains, touche à son terme, mais séchez vos larmes, chers auditeurs et surtout auditrices, car le voilà qui arrive, semblant léviter dans ses berloutis. Nikos Aliagas arrive pour le 7-9 avec ce teint hâlé que seuls les Grecs savent conserver jusqu'à la mi-décembre. Céline, êtes-vous prête pour Nikos ?
Moi j'ai enlevé mon pull, je peux pas faire plus. Hein.
Oh là là,
elle est prête.
Il est 6h55, Mathieu Noël.
Oui, Debout les copains s'apprête à passer la main à celui que vous appelez Nikos Aliagas, mais qu'en interne, on appelle désormais le père Foire Aliagas.
Vous savez ce que ça veut dire pharmacon en grec ancien ?
Ah non, dites-moi.
Ça donnait pharmacie, c'est à la fois le poison et le remède.
Ah.
Anissé Mbida, notre spécialiste innovation, a-t-il décroché la clé ? Visiblement non. Voici le débrief de la matinale de Nikos Aliagas. Nikos, qui le sait, être un bon journaliste, c'est avant tout 2 choses. 1, s'exprimer clairement. 2, poser les bonnes questions. Démonstration.
Qu'est-ce qu'on doit faire pour bien commencer la semaine ?
Je ne sais pas. Manger chien, faire du sport, se refourcher aussi. Non, je suis méchant car personne n'est à l'abri d'une langue qui fourche. L'important, c'est qu'un journaliste sache s'emparer des sujets forts de son temps. Qu'il ose s'engager dans la lignée des Albert Londres, des Raymond Aron, qu'il ait le courage de ses opinions, quitte à jeter des pavés dans la mare, quitte, oui, à choquer.
La batterie portable, c'est tellement fastidieux. Pour être sûr d'avoir suffisamment d'autonomie, on est là, on se balade avec des câbles de partout. Moi, j'en peux plus.
Il n'en peut plus et il le dit, mesdames et messieurs, c'était le j'accuse de Nikos Aliagas. Enfin, je vous taquine, Nikos, mais je n'oublie pas votre incroyable polyvalence, car on dit Albert Londres, on dit Raymond Aron, mais entre deux articles dans le Figaro, Albert et Raymond prenaient-ils le temps d'organiser un photoshoot avec leurs collègues ? Non ! Alors que vous, Nikos, oui. Comme on a pu le découvrir avant-hier, surpris mais flatté, le présentateur du journal de 8h, le sémillant David Doucan, nos auditeurs se demandaient ce que vous faisiez durant les coupures pub. Ils vous imaginaient concentré, épluchant nerveusement les dernières dépêches AFP. Oh, pff, non.
Là que je te fasse une photo. Je t'ai pas fait depuis longtemps.
C'est vrai, ça ?
Voilà. Regarde-moi.
Toi ou le téléphone ?
Non,
je pas bien.
Là, c'est bien. Regarde par là. Ouais. Et marque-toi un peu. Voilà.
Bien ou pas ? Ouais, bon, je sais pas poser, moi. Je suis nul.
Merde, je l'ai perdu. Vas-y, encore. Voilà, beau gosse. Hey. Merde, c'est pas bon.
Parce qu'il reste 18 secondes. Souris à Céline, ça sera un sourire sincère.
Et voilà les photoshoots secrets d'Europe 1 entre David Doucan et Nikos.
Et qui vient de le refaire avec vous, Mathieu.
Mais vous n'avez pas ondulé votre corps.
Non, je n'ai pas assez ondulé. J'essaierai d'onduler plus la prochaine fois.
Merci beaucoup, Mathieu Noël et Varrock, Céline Dacosta. C'est un plaisir de commencer avec le sourire.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.